Les mots de la culture, une émission proposée par Michel Théron.
Bonjour à tous. Eh bien, nous continuons notre réflexion sur la culture générale, faite à partir du livre « Comprendre la culture générale » que j'ai fait paraître chez Ellipse à Paris il y a un certain nombre d'années. Maintenant, alors nous en sommes au chapitre 8, qui est intitulé « Culture et finitude ». Lors des dernières émissions, nous avions établi une bipolarité fondamentale. D'une part, l'exaltation, qui a lieu lorsque l'homme s'élève, s'exalte vers un idéal et il est confronté alors à la finitude de la vie, à son côté sordide et décevant. Et d'un autre côté, l'autre pôle, c'est la banalisation. L'homme alors prend acte de justement du sordide de la vie et va décider de devenir un homme de plaisir, un homme qui va satisfaire simplement ses instincts. Alors, il y a parfois oscillation d'un pôle à l'autre, exactement comme dans ce qu'on appelle la psychose maniaco-dépressive. Bon, je ne suis pas médecin, mais enfin, je prends ces termes, si vous voulez, non pas dans leur sens propre, pathologique, bien défini, mais dans un sens métaphorique. Quand l'époque est dépressive, le risque est grand alors de bouffées délirantes de type maniaque. Maniaque renvoie au grec mania qui veut dire exaltation, véritablement folie. Ce n'est pas du tout le sens affaibli que ce mot a pris aujourd'hui. Alors il existe donc des banalisations qui sont individuelles, par exemple celle de Sancho Panza face à Don Quichotte dans le roman de Cervantes, ou bien celle de Monsieur Homais face à Emma Bovary dans le roman de Flaubert. Ça concerne l'individu, mais je pense qu'on peut élargir la question et parler de banalisation collective. En réaction contre cette banalisation collective, quand le monde devient, comme le disait Nietzsche, un désert, eh bien il peut y avoir des bouffées délirantes, donc des bouffées d'exaltation collective, elles aussi. Si le monde devient désert, l'homme peut redevenir, par exemple, animal, par simple réaction, par méfiance vis-à-vis, mettons, du désert positiviste tel qu'il se présentait au XIXe siècle et contre lequel Nietzsche s'est insurgé, si vous voulez. Alors, cette exaltation collective peut mener à une catastrophe que j'appellerais l'animalisation de l'homme. Or, l'animal dans l'homme doit être apprivoisé, sinon il va nous dévorer. Il y a un logion de l'évangile selon Thomas, c'est un évangile que j'aime beaucoup et auquel j'ai consacré un livre chez Dervy, une voix nommée Jésus, l'évangile selon Thomas. Alors ce logion, c'est-à-dire cette petite parole, nous dit la chose suivante. Heureux est l'homme qui mangera le lion, et le lion deviendra homme, mais malheureux est l'homme que le lion mangera, et le lion deviendra homme. Alors l'expression « et le lion deviendra homme » change de sens à chaque fois qu'elle est utilisée. C'est ce qu'on appelle une antanaclase, c'est-à-dire un miroitement, un écho sonore, si vous voulez, ou un reflet visuel, antanaclasis. Dans le premier cas, quand l'homme mange le lion, il se l'incorpore, il apprivoise le lion, et le lion n'est plus dangereux. Et le lion deviendra homme, ça veut dire le lion, la bête, s'humanisera. Mais dans le deuxième cas, malheureux est l'homme que le lion mangera et le lion deviendra homme, cela veut dire que si l'homme est submergé par ses pulsions, par son animalité, par le lion en lui, la bête en lui, alors finalement la bête va s'incarner en un homme. Et donc c'est l'homme qui va s'animaliser. Par parenthèse, vous voyez que les logias, c'est-à-dire les petites paroles de l'évangile selon Thomas, sont énigmatiques et elles ont besoin d'être expliquées. C'est ce qui explique peut-être que ce texte gnostique, dit-on, n'a pas été reçu en Église, parce que cela demandait beaucoup trop d'habileté intellectuelle, de souplesse intellectuelle, et le public, les fidèles préfèrent être dirigés que d'être sommés à penser, à réfléchir. Voilà. Alors, prenons le cas de cette animalisation de l'homme. Elle est indiquée, par exemple, dans une pièce comme « Rhinocéros d'Ionesco ». Cette pièce raconte la transformation d'hommes en animaux à cuirasse, verte et luisante. Ces animaux sont beaux, ils ont ce qui était la splendeur primitive animale avant que l'homme ait commencé à s'inhiber, à se paralyser par trop de réflexion ou de contrôle de soi. En effet, l'homme civilisé, il hésite, il s'angoisse, il transpire, il a les mêmes moites, il ne sait pas ce qu'il faut faire, il sacrifie à ce qu'on appelle le démon de la procrastination, c'est-à-dire qu'il diffère toujours pour le lendemain ce qu'il devrait faire maintenant. Et l'homme moderne, civilisé, il n'est pas beau, hein, tandis qu'en regard de lui, le rhinocéros est très beau, il n'hésite pas, il a l'assurance péremptoire des primitifs ou de la préconscience. Hein. Si donc le monde moderne est très compliqué et hésitant, on va le simplifier. Il y a donc l'ascendant d'un simplificateur sur l'esprit fatigué, en proie aux longs ennuis, comme dit le poète, hein, et cet ascendant est très grand. Cette simplification, évidemment, par bien des côtés, est tragique. Je pense par exemple au personnage du grand forestier dans le livre de Junger sur les falaises de marbre. Il y a un nivellement et un saccage, justement, de tout ce que la civilisation a apporté à l'homme. Parce que la civilisation amène l'homme à trop réfléchir, à trop douter. Elle détruit en lui la certitude, la sûreté. Je pense aussi à Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, qui a été mis au cinéma par Truffaut. Ces gens qui lisent des livres, ils sont évidemment très cultivés, mais ils voient les différents aspects d'une situation. Ils n'ont pas, justement, la certitude péremptoire. Et contre cela, tout régime totalitaire va réagir, en l'occurrence en brûlant les livres. Que ne donnerait-on pas pour être débarrassé de l'hésitation? Ainsi, la rhinocérite d'Ionesco, c'est la tentation d'aliéner la réflexion et l'individualité à une idéologie qui nous débarrasse de nous-mêmes du poids de notre propre fardeau. Évidemment, ce peut être une métaphore du totalitarisme. Je pense par exemple au nazisme, à la peste brune du nazisme. C'est une métaphore des différents fascismes. Et aujourd'hui, ça pourrait être la tyrannie du prêt-à-penser que l'on voit dans un certain usage de la télévision ou des médias. Valéry disait « Il n'y a que les huîtres et les sots qui adhèrent », vous voyez. Eh bien, on adhère souvent à une idéologie simplificatrice par dégoût de soi, pour trouver la tranquillité dans le conformisme de l'opinion, de la doxa. Alberto Moravia illustre cela dans son roman « Le conformiste ». C'est un film aussi de Bernardo Bertolucci, avec Jean-Louis Trintignant, et on y voit la peur du héros devant ses vertus, devant ces gouffres profonds. Il y a par exemple une scène de danse entre deux femmes qui suggère un amour de type saphique. Tout cela effraie justement le personnage joué par Trintignant au point qu'il va se livrer pieds et poings liés à une idéologie fascisante. Il y a la même peur des gouffres intérieurs dans le nazisme, par exemple, par conformisme. Voyez Les Damnés de Visconti. Il y a une homosexualité latente du personnage d'Helmut Berger dans ce film, et on peut dire qu'il y a une sexophobie généralisée du nazisme. En général, je dirais que plus il y a de peur, de culpabilité chez un homme, plus il y a ensuite d'agressivité. Prenez par exemple la position du christianisme traditionnel. Peut-être que cela a changé maintenant, et on peut toujours l'espérer, hein. Eh bien, on culpabilise le pécheur, hein. Vous avez par exemple au début de la messe, le fameux Kyrie Eleison, Seigneur prends pitié, hein, une expression grecque qui amène justement à une contrition. Cette contrition, elle est souvent répétée par une espèce de bégaiement que je dirais masochiste, hein, c'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma très grande faute. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa, vous voyez. Et donc cette position culpabilise le pécheur en laissant essentialisant, hein, reconnaissant que nous sommes pécheurs et non pas que nous avons péché, et ça me pose problème. Si on ne s'aime pas en se voyant ainsi, insuffisant, on finira par détester les autres, hein. Si on commence toujours par se reconnaître pécheur, où s'arrêtera-t-on? Vous savez que l'agressivité est liée au sentiment de la faiblesse. Plus un chien est petit, le petit roquet, plus il aboiera fort, hein. Voilà. Donc, parce que le petit chien se sent très faible, hein. Et regardez par exemple l'itinéraire de Paul, de Saint Paul, hein, qui nous dit d'abord qu'il est un avorton, hein, dans la première épître aux Corinthiens. Il est apparu à moi, Christ ressuscité, comme un avorton. Et ensuite, dans ses autres épîtres, il fait preuve d'une très grande violence en décrétant anathème tout ce qui ne partage pas ses opinions, en particulier son propre kérigme ou son propre credo. Donc plus on s'inhibe, plus on se sent petit, hein. Paul, Saül, s'était appelé Paulos, Faulos, ça veut dire petit, eh bien plus après on risque de devenir violent, hein. Sénèque le dit, omnis enim ex infirmitate feritas est, c'est-à-dire toute cruauté, feritas, vient du sentiment de la faiblesse, de l'infirmité, si vous voulez, dont on a en soi la vision, hein. Donc, quand il y a frustration, il y a agressivité. Qui se fait violence devient violent vis-à-vis des autres. Le fascisme, par exemple, vient de la haine de soi, hein. C'est le cas, il suffit de lire le journal de Drieu-La Rochelle pour voir justement ce passage. Hein. Je pense que, William Reich, par exemple, dans Psychologie de masse du fascisme, a montré justement cette sexophobie de la mystique nazie qui est corrélée à une névrose qui se chérit elle-même, hein. Et vous en avez une équivalence dans le film de Visconti qui s'appelle Les Damnés. Voilà, alors continuons notre réflexion sur ce problème. Je vais prendre l'opposition que fait Bergson entre la mécanique et la mystique. Quand le monde environnant est un monde dit mécanique et très rationnel, voyez le positivisme, je le répète, Auguste Comte et ses épigones au XIXe siècle, on va se réfugier par réaction dans une mystique irrationnelle. Hein. Lorsque la raison domine, et avec elle le mécanique, pour reprendre les mots de Bergson, lorsque dominent les idéaux d'objectivité et de froideur, l'inconscient peut prendre sa revanche sous forme d'effusion mystique. Il se produit ce que Jung appelait une énantiodromie, c'est-à-dire un basculement à l'opposé, vous voyez. Mais déjà Pascal, l'homme n'est ni ange ni bête, le malheur veut que qui veut faire l'ange fait la bête. Donc ce basculement à l'opposé est tout à fait compréhensible. On cherche toujours ce que l'on n'a pas. On cherche l'ombre quand on a chaud et on cherche le soleil quand on a froid. C'est un mouvement cyclique ou périodique, un mouvement, je dirais, pulsatoire. C'est comme une main qui s'ouvre et se referme, ou encore comme le cœur avec sa systole et sa diastole. Donc supposons ce 19e siècle, par exemple, positiviste et désertique du point de vue de l'âme, eh bien les effusions mystiques vont croître sur ce terreau-là, sur la désymbolisation. Je rappelle que l'âme de mon livre, c'est la notion de construction symbolique, et que l'idée qui sous-tend tout ce livre, c'est qu'une culture fonctionne par crédit, croyance ou fiducia accordée aux constructions symboliques. Mais si on désymbolise, si on détruit ces constructions symboliques, alors au moyen par exemple du rationalisme, un rationalisme étroit, à ce moment-là, on peut en réaction voir surgir des mouvements mystiques. Par exemple, aujourd'hui, la protestantification, pour ainsi dire, de l'Église catholique, peut faire le lit des sectes. Les sectes, c'est le mysticisme, l'effusion irrationnelle, etc. Alors, on a simplifié la foi. En un sens, c'était une bonne chose, mais le Dieu catholique, une fois perdu tous les anciens rituels, c'est un Dieu en discount, je dirais, c'est-à-dire à bas prix, et donc les sectes prolifèrent là-dessus, sur ce manque, cette destruction. De la même façon, je le répète, le positivisme moderne a engendré Nietzsche, qui a lui-même, évidemment, mais sans que ça soit de sa faute, été relu par les nazis. Alors là, il faut bien insister, c'est la faute, justement, de la sœur de Nietzsche, Elisabeth, qui a pris en charge l'œuvre de son frère, après la déclaration de la folie de ce dernier, et qui a flirté, justement, avec cet irrationalisme nazi. Ce n'est pas Nietzsche lui-même qui a amené le nazisme et qui même il ne l'a pas préfiguré. Ce n'est pas de sa faute si on a instrumentalisé son cri d'angoisse. Dieu est mort, c'est-à-dire cri d'angoisse et pas de triomphe. Si Dieu est mort, on ne croit plus à rien. À quoi est-ce que l'on va croire, vous voyez? C'est là le nihilisme européen que Nietzsche stigmatise. Alors, reprenons le cas de ce fascisme nazi, il est plein de forces irrationnelles, la terre, la race, le chef, la force, l'autorité. Et ces forces, avec leur ascendant sur les esprits, ont poussé et grandi dans le désert positiviste. Par une sorte de paradoxe, le dégoût même de ce désert a valorisé l'instinct de mort, la pulsion de mort. Il y a quelque chose en nous, disait Freud, qui se situe au-delà du principe de plaisir. C'est le titre d'un essai de Freud de la fin de sa vie qui est vraiment très intéressant, au-delà du principe de plaisir. Donc on sait par exemple que le névrosé ne veut pas guérir, qu'il se rattache à sa maladie. Cette maladie lui semble préférable à la santé du bien portant, parce que ce bien portant il le hait, il l'exècre précisément. Et dans le combat d'Eros et de Thanatos, c'est-à-dire de la pulsion de vie, Eros du désir, et de la pulsion de mort, Thanatos, le nazisme a choisi la seconde, Thanatos contre Eros. Il y a, alors je le répète, cette fameuse sexophobie nazie montre bien justement un désir de mourir, de tourner le dos à la vie. Et alors, on comprend que quand le moi nous est à charge, quand on ne supporte pas toutes ces hésitations et tous ces doutes, on comprend qu'on puisse se réfugier dans le corps mystique du groupe, de la masse, dans la mystique, au sens de Bergson, c'est-à-dire dans, une idéologie totalement irrationnelle, où on se contente de suivre le chef, le guide. En effet, psychologie individuelle, individuelle et psychologie collective sont liées. Hein. Il y a des névroses collectives et il y a des folies des peuples, comme il y a une folie de l'individu. Alors l'exaltation se voit, alors tenez un autre exemple, se voit aujourd'hui dans les mouvements collectifs religieux, je pense à certains charismatiques, hein, mais déjà dans la phrase de Paul, hein, ce n'est plus moi qui vis, c'est Dieu qui vit en moi, ou c'est Christ qui vit en moi plutôt, hein, il y a là la parole d'un énergumène, c'est-à-dire quelqu'un qui est possédé par quelque chose qui le dépasse, énergumenos, énergeia, une force, hein, donc... on peut dire aussi un enthousiaste, c'est-à-dire Dieu, quelqu'un qui a Dieu en lui-même, mais c'est une phrase qui est le propre d'un fou, c'est une exaltation maniaque, précisément. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Hein. Et cette parole qui est mystique, peut symboliser beaucoup de cultes charismatiques, j'appelle ça les dévisseurs d'ampoules, hein. C'est-à-dire ceux qui font des gestes avec leurs mains, comme s'ils dévissaient des ampoules, pour bien indiquer que l'esprit est descendu sur eux. Alors, l'esprit, il faut le Saint-Esprit, il faut le négocier, hein. Il ne faut pas se livrer pieds et poings liés, je dirais, au pouvoir de l'esprit. C'est un peu comme la langue d'Ésope, la meilleure et la pire des choses, parce que ce qui nous porte peut aussi nous emporter dans la folie. Hein. C'est le cas, par exemple, quand on fait de la voile, hein, eh bien, l'esprit, le vent, le souffle, c'est pareil, hein, topnema pnei. Le souffle, dit l'évangile de Jean. L'esprit, le vent, peut renverser le bateau. Bien sûr, s'il n'y a pas de vent, on n'avance pas, le bateau n'avance pas, il est en panne. Donc il faut de l'esprit, il faut du vent, du souffle. Mais un coup de vent peut faire dessaler le navigateur. Alors il faut donc que le pilote joue avec la force du vent pour pouvoir naviguer travers ou auprès, ou parfois pas exactement contre le vent, mais il peut le remonter, vous voyez. Je crois qu'il en est de même pour la gestion de l'esprit ou du Saint-Esprit. Il faut beaucoup de prudence vis-à-vis de son influence sur nous. Alors la dépossession, le renversement ou la submersion du moi, je file ma métaphore maritime, sont favorisés par l'insertion au sein d'un groupe. Et je ne pense pas que ça soit la meilleure réponse au problème de la banalisation ou de l'oubli de l'âme. En effet, il vaut mieux toujours préférer le dialogue entre individus particuliers au meeting, la foule elle-même. Gustave Le Bon a parlé de la psychologie des foules pour montrer les dangers qu'il y a dans ce que Alain appelait le gros Léviathan, hein, la foule. La foule est le lieu des entraînements non réfléchis. Schopenhauer disait que le niveau mental d'un homme s'abaisse à proportion que le groupe dans lequel il se trouve est important. Alors la mystique du chef, du guide, que ce soit le Führer ou bien le Duce italien ou le Caudillo espagnol, hein, eh bien cette mystique mène à une abdication et marcher au pas dispense de penser. Dans le film Le Cercle des Poètes Disparus, le professeur Keating fait marcher ses élèves dans la cour et puis il dit au premier, celui qui est en tête, d'accélérer le pas. Eh bien ce qu'il fait et tous les autres accélère aussi le pas par une espèce d'entraînement non réfléchi. Donc on ne pense pas. L'instrument qui fait le plus de bruit, c'est le plus creux, c'est la grosse caisse. Hein. Bon, donc il faut se méfier de ces entraînements spontanés de la foule. Le premier sondage d'opinion, ça a été, à mon avis, le fameux Libère Barabbas. Hein. Qui voulez-vous que je vous sacrifie, Jésus ou que je vous livre, Jésus ou Barabbas? La foule crie Libère Barabbas. Voilà le premier sondage, hein. Et cela montre bien les réflexions constitutives de la foule. Alain a réfléchi là-dessus dans ses propos sur les pouvoirs, et je répète ce mot de Léviathan qu'il attribue à la foule, dont il faut se méfier. À cet égard, on pourra noter le rôle fascisant, je dirais, de la musique. Hein. Je pense au livre de Paul Quignard, « La haine de la musique ». C'est en musique qu'ont brûlé les Juifs dans les camps de concentration. La musique peut être vue comme une abdication intellectuelle. C'est un massage et non pas un message. Voyez l'utilisation totalitaire qui a été faite de la 9e symphonie de Beethoven. Il y a, par exemple, Beethoven a été utilisé par Alex dans Orange Mécanique de Kubrick. Hein. Bon, l'ultraviolence au son de la musique de Beethoven. Hein. Alors, d'après Anthony Burgess, hein, c'est un roman, Orange Mécanique, le film de Kubrick nous montre justement que son personnage, Alex, hein, bon, aimant Beethoven, peut être mené à commettre justement les pires violences. Alors, je m'empresse de corriger ce que je viens de dire. Ce que je viens de dire vaut pour la grande symphonie du 19e siècle. Hein. Alors cette symphonie, le 19e siècle, c'est l'époque des foules en masse, hein. L'époque des nationalismes, l'époque justement où les peuples se soulèvent. Alors là, la grande symphonie est significative de cet état d'esprit. À cela, j'oppose moi une musique que j'aime beaucoup et qui n'est pas du tout justiciable des griefs que je viens de faire, c'est le quatuor à cordes du 18e siècle. Hein. Là, c'est une discussion entre amis, quatre instrumentistes, hein, et là-dedans, il n'y a pas du tout les défauts que j'ai signalés, marcher au pas, etc. C'est une discussion en petit comité. Alors, reste maintenant, avant de continuer la réflexion, d'établir les données du problème. Voyons, est-ce qu'un être peut être banalisé constamment ou exalté constamment, hein. Ce problème est posé par Bernardo Bertolucci dans son film qui s'appelle Little Buddha, hein. Il nous dit, si la corde est trop tendue, elle casse, hein. Si elle ne l'est pas assez, elle ne rend aucun son. Donc, si la corde est trop tendue, comme dans le cas de l'exaltation, la catastrophe est engendrée. Mais si la corde n'est pas assez tendue, il n'y a aucune musique dans la vie. Or, il faut avoir en soi une certaine musique pour faire danser la vie. Alors, là, je ne contredis pas ce que j'ai dit tout à l'heure. Je parle maintenant pas de la musique qui fait marcher au pas, mais de la musique harmonieuse. Hein. Donc, voyez, il me semble que il n'y a pas de solution simple dans ce dilemme, exaltation ou banalisation. Si on se tend trop, en tombe, comme Icare qui, à force de s'approcher du soleil, a été précipité dans la mer. Hein. Ses ailes ont fondu, il a été précipité dans la mer. Donc, il a voulu que la vie soit toujours poétique et exaltée. Je vous renvoie au poème de Baudelaire qui s'appelle « Plainte d'un Icare », où Baudelaire se met dans la peau d'Icare qui a voulu étreindre les nuées et qui ensuite a été s'est noyé, hein, précisément. Mais si je me banalise, comme par exemple, je l'ai dit dans une émission précédente, Dionysos, ou le dieu de l'ivresse, hein, le dieu de l'instinct, à ce moment-là, je vais aller à volo, hein, sans aucune unité intérieure, et Dionysos a été déchiré par les ménades, c'est le sparagmos, c'est-à-dire le dépècement, hein, et donc, ça c'est la pathologie qui guette le banalisé. Donc, la pathologie de l'exalté, c'est la submersion, la pathologie du banalisé, c'est l'écartèlement, le manque d'unité intérieure. Alors, lors de la prochaine émission, nous essaierons de trouver une solution à cette question. Hein. Je ne suis pas sûr qu'on la trouve, mais enfin au moins ça vaut le coup d'essayer. Il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer, disait Guillaume d'Orange. Bon, de toute façon, je pense toujours dans ces réflexions à la phrase de Valéry, l'esprit clair fait comprendre ce qu'il ne comprend pas. Eh bien, je vais vous laisser sur ce doute, je vous signale la parution de mon dernier livre qui s'appelle « Sur les chemins de la sagesse ». L'éditeur, c'est BOD, www.bod.fr. Et ce livre est en vente aussi dans toutes les librairies sur commande. Et il est aussi en vente sur toutes les plateformes internet, les plateformes de vente. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous dis à la prochaine émission pour essayer de trouver une solution à notre problème, exaltation ou banalisation. Au revoir à tous.
Retrouvez Michel Théron sur son blog www.michel-théron.fr.